Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs avec le club champion de France sur BFM Paris, Île-de-France, 12e titre de champion donc hier soir pour le PSG, le tout à désormais 48 heures d'une demi-finale. Allez, de Ligue des Champions, le PSG est en train de vivre, les amis, une fin de saison terriblement excitante. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mao Bécard-Granier, journaliste.
Salut Julien, bonjour à toutes et à tous.
Salut Mao. Saïd Hamda, journaliste sportif, est là également.
Comment tu vas?
Bon, moi très bien, je vous demande pas si ça va, j'ai l'impression qu'il y a un petit sourire sur les visages d'à peu près tout le monde. Le sommaire, on y va avec le PSG, champion de France donc depuis hier soir, retour sur cette saison de Ligue 1 parfaitement gérée, sans concurrence pour le PSG. Ce titre est-il un parmi tant d'autres ou porte-t-il la marque de Luis Enrique? Dortmund PSG J-2 et on va prendre des nouvelles des Allemands avec Maxime, créateur du compte France BVB. Il sera avec nous dans la deuxième partie. A-t-on raison d'être aussi optimiste pour le PSG ou faut-il se méfier? C'est la question que l'on se posera dans la toute dernière partie. Saïd et Mao nous dévoileront tous leurs arguments, enfin comme tous les lundis, les résultats foot et omnisport de vos clubs franciliens comme Paris. C'est parti. Le petit tweet du PSG qui est donc tombé hier soir vers 21h. Le PSG sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire. Sans jouer, c'était un petit peu particulier après la défaite de Monaco face à Lyon. On va voir le classement, les amis. Le PSG ne peut plus être rattrapé à 3 journées du terme. Les joueurs de Luis Enrique comptent 12 points d'avance sur Monaco. On ne peut pas vraiment parler de surprise, j'ai envie de dire, quant à ce sacre. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il a quand même une saveur, un goût un petit peu différent de celui de la saison dernière.
La première année de Luis Enrique, la saison dernière, il y avait quand même plus de doutes. Hein. En fin de saison, on était vraiment pas loin. Lens était bien revenu. Là, c'est une victoire écrasante sur le championnat avec une absence de concurrence. Et évidemment, la patte du nouveau coach Luis Enrique qui a voulu vraiment mettre tout le monde dans cette belle histoire.
On va y revenir. Est-ce que c'est pas aussi le sacre d'un collectif, contrairement, schématise, caricature un petit peu, à celui d'individualité la saison dernière?
Moi, je pense que si on peut dégager une différence, ce serait celle-ci. Luis Enrique est arrivé avec un nouveau groupe. Il a commencé à rebâtir presque tout à zéro parce que le PSG s'est quand même délaissé de Verratti, de Neymar, de Messi, de Sergio Ramos, des joueurs qui avaient quand même un impact dans le vestiaire. Donc c'est un petit peu sa victoire. Si on doit dire que c'est une saveur particulière, c'est surtout celle-là où on a sorti un groupe concerné tout au long de la saison.
Ouais, je parle de l'extérieur aussi. J'ai l'impression que même les supporters goûtent. Voilà, il y a une saveur différente de la saison dernière où tu fais match nul à Strasbourg, 37e journée. Comme tu l'as dit, Lens revient à un point en toute fin de championnat. Là, il y a un sentiment. Il y a aussi quelque chose de retrouvé en termes de jeu et en termes d'état d'esprit.
Non, mais c'est évident qu'on est dans une logique et aussi celle de la Ligue des Champions a aussi propulsé les victoires en championnat, c'est-à-dire que quand en Ligue des Champions on est parfois face à des murs et qu'on gagne, quand on apprend dans la difficulté, ça nous rend plus fort pour le championnat. Je pense que ça a aussi participé, mais c'est sûr que le départ de Messi et de Neymar a été salvateur pour le PSG.
C'est un PSG champion de France dont on peut se souvenir à l'instar de celui de Laurent Blanc peut-être par exemple, de par encore une fois la qualité de jeu et de ce qu'il dégage.
Je ne sais pas si c'est un PSG mémorable parce que peut-être que là c'est un petit peu la culture de l'instant et qu'on voit les choses un petit peu trop belles. En revanche, si le PSG arrive à faire le fameux quadruplé historique, là oui, forcément ça sera un PSG mémorable. Il va être un petit peu mémorable quand même parce qu'il affiche la cassure avec Neymar, Verratti surtout, même si moi c'était des joueurs que j'adorais. Je pense qu'il y avait une nervosité. Il y avait une usure autour de ces joueurs-là et qu'il fallait un petit peu tourner la page d'un livre, même si les histoires d'amour sont toujours compliquées. Mais si elles ne se finissaient pas mal, ça ne serait pas vraiment une histoire d'amour. Donc voilà, ce PSG-là, c'est, je pense, le premier chapitre d'un nouveau livre. Et c'est en ça que ça restera dans les mémoires.
Il porte la patte, la marque de Luis Enrique, ce titre-là. J'ai aussi envie qu'on parle de la gestion qu'a eu Luis Enrique tout au long de la saison. Mbappé écarté puis réintégré, l'annonce du départ, la rotation, les jeunes aussi qui jouent de plus en plus. On a une gestion quand même quasi parfaite en Ligue 1.
Oui, c'est vrai, c'est là qu'il a montré sa patte, c'est sur ses deux points principaux. Je suis capable de faire sortir Mbappé, je suis capable de ne pas mettre Mbappé titulaire dans un match important, il l'a encore fait contre l'Olympique Lyonnais l'autre soir. Et à côté, cette confiance assez jeune, bah, la prolongation de Zaïre Emery est la patte de ça, mais il n'y a pas que lui, on l'a vu récemment avec Mayoulou. Voilà, ça c'est il a... Et puis au-delà des jeunes, c'est le groupe élargi. Il y avait 25 joueurs sur les 6 dernières rencontres, j'ai plus chiffre précis, mais c'est voilà, il montre que sa manière de faire tourner les joueurs fonctionne.
Quelques chiffres sur cette saison de Ligue 1, le PSG qui a presque tout survolé de bout en bout, les chiffres pas encore définitifs de ce 12e sacre, une seule défaite face à Nice, c'était en septembre, meilleure attaque, 3e seulement meilleure défense et meilleure équipe à l'extérieur où le PSG est invaincu. Quand on a dit tout ça, Saïd, il faut aussi quand même se poser la question de la concurrence. Inexistante en un mot cette saison en Ligue 1.
Oui, concurrence inexistante, mais ça c'est pas la faute du PSG malheureusement. Je pense que les autres clubs doivent aussi travailler pour mettre un petit peu plus de pression sur le PSG. On attendait notamment l'OM qui avait fait quand même un gros mercato, l'OL qui revient plutôt bien mais qui a commencé sa saison avec son mercato hivernal en janvier. J'ai envie de revenir juste rapidement sur la gestion, et ce que j'ai envie de dire c'est que le PSG est pour la première fois presque depuis l'ère Qatari géré comme un grand club. C'est là où on voit comment Guardiola gère son effectif, comment Klopp gère son effectif. Ils n'ont pas peur de sortir les gros joueurs, ils n'ont pas peur de faire un turnover. J'ai une petite stat qui va peut-être un peu vous amuser. Je me suis amusé à regarder qui était le joueur qui avait le plus de temps de jeu, toutes compétitions confondues au PSG. Là, spontanément, vous penseriez à qui ?
Hakimi, moi, comme ça, mais...
Zaïre Emery.
Ouais, bah figurez-vous que c'est Mbappé.
Mbappé, bon,
vous pouvez aller vérifier. Donc tu vois, on a beaucoup ce débat sur la gestion d'Mbappé, est-ce qu'il est bien géré, est-ce qu'il n'est pas géré. Ça reste quand même, encore une fois, le joueur le plus important de l'équipe, il est le plus géré. Hakimi, on aurait pu le croire, mais c'est vrai qu'avec la CAN, il a manqué 3-4 matchs. Et donc du coup, ça fait qu'il est, je crois qu'il est dans le top 5 quand même. Donc on a cette gestion-là où on sait utiliser les grands joueurs au bon moment. Et c'est pour moi ça qui fait la différence, c'est que là, on n'a pas un 11 qui est utilisé comme ce qui a pu être fait dans les années passées. On avait vraiment le 11 titulaire et les autres qui grappillaient des miettes. Là, cette fois, on a 17-18 joueurs.
Je reviens rapidement sur la concurrence. Mao, c'est vrai que Saïd a parlé de l'OM et l'OL catastrophique, on va dire, en championnat en tous les cas cette saison. Brest, Nice, Monaco, il n'y a pas un club qui pouvait rivaliser avec le PSG cette saison. Est-ce que tu as vu à un moment une de ces équipes?
Non, j'ai vu que les gros n'étaient pas au niveau. Monaco fait sa saison, mais c'est les gros et c'est notamment l'Olympique de Marseille, effectivement l'Olympique Lyonnais qui n'était pas là. Au contraire, Brest, moi je trouve, Brest a posé des soucis. Brest fait une exceptionnelle saison par rapport, c'est le 11e budget de Ligue 1. C'est incroyable. Non, le problème c'est les gros, ceux qui ont des gros budgets et qui n'arrivent pas à être compétitifs. Enfin, c'est ce que dit Saïd, donc je ne vais pas me répéter, mais le début catastrophique de l'OL et ensuite l'Olympique de Marseille, voilà, on leur met 6-0 sur deux matchs, il n'y a pas de débat.
Il y a souvent des images, des matchs qui restent en tête dans une campagne comme celle-ci, victorieuse. Est-ce que vous avez un match tournant, charnière, ou qui incarne selon vous ce titre du PSG?
Je ne vais pas être original, je dirais le match aller face à Marseille, le 4-0, parce que je pense qu'il y avait... personne s'y attendait. C'est ça qui était beau, c'était... C'était au parc, ça commençait.
C'était pour l'OM qui venait de changer d'entraîneur, c'était Abardonado sur le banc. Et c'était sans Mbappé.
Mais en 4-0, personne ne s'attendait vraiment à que ce soit une gifle comme celle-ci. En plus, le match, il démarre avec un coup franc direct d'Hakimi. Après, il y a la rentrée de Kolo Muani aussi, qui célèbre avec cet ADN vraiment Paris. Donc, ce jour-là, je pense qu'il s'est passé quelque chose et que le groupe a été encore plus soudé après ce match.
Mao.
Bah, il y a évidemment aussi ce retour face à l'OM 2-0 à 10 contre 11. C'était ça, c'était Beraldo se fait expulser. Là, j'imagine qu'on imagine tous que les Marseillais se disent « Ah, il y a peut-être une opportunité ». Et en fait, le PSG toujours aussi clair. Mais aussi, je retiens aussi beaucoup le 5-2 contre l'AS Monaco, qui a toujours été le rival finalement le plus important cette année du PSG.
Avec le premier but de Dembélé de la saison.
Exactement. Bah, voilà, c'était aussi une rencontre qui disait encore une fois « Bon, il n'y a pas vraiment de concurrence à la hauteur cette année
». Un des joueurs clés de la saison en Ligue 1, vous l'avez évoqué et on va l'évoquer rapidement, c'est Warren Zaïre Emery. C'est l'un des joueurs aussi les plus utilisés par Luis Enrique. Le secret avait été bien gardé, même si c'était dans l'air du temps. Il a officialisé sa prolongation samedi à l'avant-match aux côtés du président. C'est forcément, question un petit peu rhétorique, une très bonne nouvelle de sécuriser un tel talent, Saïd.
Bien sûr, je pense que c'est une très bonne nouvelle à la fois pour le PSG et pour Warren, parce que l'Académie du PSG a sorti beaucoup de grands noms ces derniers temps, mais ces grands noms ont plutôt servi les intérêts d'autres clubs, et comme Kingsley Coman qui a offert justement la Ligue des Champions au Bayern face au PSG. Maintenant, avec ce nouveau mode de management du PSG qui laisse du temps de jeu à ses petits titis comme Mayulu, Warren en est aussi la preuve, je pense que c'est très bien aussi de développer cet ADN Paris. Et Warren s'inscrit parfaitement là-dedans. Il a 16 ans, il a déjà pas mal de matchs en pro. Il a aussi cette volonté affichée de rester au PSG, peut-être même toute sa carrière. Donc, faut miser sur ce type de joueur.
Il est jeune, Saïd, il a pas 16 ans, mais
il a 18 ans, pardon. 18 ans.
En revanche, ce qui est drôle quand même,
il a une tête de 16 ans, mais il a 18 ans.
Il a prolongé jusqu'en 2029. En 2029, il aura 23 ans. T'imagines le potentiel quand même du type qui peut. Voilà, qu'à ce profil-là, de, non seulement j'ai envie de dire de futur capitaine, un jour Marquinhos s'en ira, et de future légende du club.
Bah en tout cas, moi, je trouve que ce qu'apporte Warren, surtout, c'est cette image de l'humilité. C'est-à-dire qu'il est excellent, jeune, et pourtant, il est tout le temps parfait dans son comportement, et ça, c'est vraiment agréable. C'est l'image du PSG qu'on a envie d'avoir. On a envie d'avoir plein de joueurs comme ça. Capitaine, je ne sais pas, parce qu'il est aussi extrêmement discret.
Réservé, mais c'est vrai.
Voilà, réservé. Peut-être qu'après, il prendra du caractère en grandissant, mais pour l'instant, je le vois plus comme sans doute effectivement une très longue trajectoire dans ce club que forcément comme un capitaine.
Le PSG qui négocie justement, petite info, avec Seni Mayulu pour lui offrir son premier contrat professionnel, et puis un autre joueur qui a marqué cette saison et pas qu'en Ligue 1, c'est Vitinha. Négociation également en cours pour prolonger le portugais. Petite coupure pub et on se retrouve dans quelques instants avec Maxime du compte BVB France pour tout savoir du Borussia Dortmund. À tout de suite. De retour dans Cop Paris avec nos invités du soir, Mao Bécard-Granier, journaliste RMC, Saïd Hamda, journaliste sportif. Quel fait plaisir à entendre cette petite musique début mai quasiment pour les demi-finales. On y est presque J-2 avant la demi-finale aller de Ligue des Champions. Rendez-vous mercredi soir. On va voir le programme à 21h devant le mur jaune pour y affronter Dortmund. Ce sera au lendemain de la première demi-finale entre le Bayern et le Real Madrid. Mais pour tout savoir de cette équipe du Borussia Dortmund que le PSG a d'ailleurs affronté déjà deux fois cette saison, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime, créateur du compte BVB France, 15 000 abonnés quand même sur X. Salut Maxime.
Bonsoir, salut Julien.
C'est la deuxième fois qu'on t'a dans Cop Paris cette saison. Tu as 31 ans, tu habites Menton dans le sud de la France et tu supportes, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Dortmund depuis de nombreuses années. Première question, est-ce que c'est une surprise tout simplement pour toi, pour vous les supporters du Borussia Dortmund, de vous retrouver en demi-finale?
Bah clairement, je veux dire, je pense dire le contraire, ça serait un mensonge. Voir le Borussia Dortmund en demi-finale, quand on voit le dernier carré avec les différentes équipes, c'est pas le même calibre. Après, bon, on va en parler derrière, mais ce double visage qu'a le Borussia Dortmund, aussi bien en Bundesliga qu'en Ligue des Champions. Après, bon, faut parler aussi du parcours. On sort quand même d'un groupe, entre guillemets, de la mort, hein, donc avec Milan, Newcastle et Paris,
comme
on se retrouve, comme tu dis, et en plus, on ne se voyait pas du tout sortir de cette poule, même finir bon dernier. Et après, ça enchaîne le PSV Eindhoven et surtout l'Atlético Madrid, très compliqué aussi.
L'Atlético, fallait les sortir quand même en quart de finale. Confiance pas forcément au top en ce moment du côté de Dortmund. On va avoir les images. Le Borussia a été corrigé samedi sur la pelouse de Leipzig, 4-1. Dortmund est 5e de Bundes. Et pourtant, en Ligue des Champions, tu le disais, voilà, il y a deux visages. Cette équipe, elle se transcende en Ligue des Champions.
Oui, c'est ça, c'est qu'on a une équipe complètement différente en Ligue des Champions. Je ne sais pas si c'est la musique qui les fait frissonner et qui leur donne une envie supplémentaire. Mais c'est vrai qu'en Bundesliga, c'est très compliqué. Donc, c'est actuellement 5e du championnat. Bon, normalement, la place en Ligue des Champions devrait être faite avec les points UEFA. Mais après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a devant, il y a Leverkusen et Stuttgart qui sont en très grande forme, on peut le dire. Et en Ligue des Champions, on a une équipe qui est passionnée, qui se donne et qui est transcendée, j'ai envie de dire.
Mao, Saïd, on revient en plateau. Le PSG a déjà affronté deux fois Dortmund cette saison. Alors, à l'aller, 2-0, match sans trop d'histoire. Le retour, c'était quand même une autre histoire. Hein. Match nul, un but partout. Mao, ça partait dans tous les sens. Et le PSG a quand même frôlé la correctionnelle à Dortmund.
Oui, on a été virtuellement éliminé de la Ligue des Champions, je crois, entre la 33e et la 58e minute ce jour-là. Ce qui signifie bien que c'était un match couperet. Et au final... Certes, c'est pas une victoire éclatante, mais j'avais quand même l'impression d'une forme de sérénité. C'est-à-dire que Dortmund n'est pas non plus un adversaire qui, à ce moment-là, nous a mis trop de pression. Et on a quand même. Mais ça a été une épreuve. Je pense que d'avoir remporté ce dernier. Enfin, d'avoir fait match nul qui nous a permis, même si c'est grâce à Newcastle, qu'on passe. Mais en attendant, c'est. On a déjà gagné des épreuves contre Dortmund. Aujourd'hui, on est quelques mois plus tard, on a beaucoup plus de confiance. Ça ne sera pas le même match pour moi.
Vous savez quel souvenir de ce match-là qui était très contrasté? C'est vrai, le PSG a eu énormément d'occasions, a pris le premier but. On se souvient d'Mbappé qui voulait mettre le deuxième à la fin.
C'était un match frustrant pour le PSG, mais je pense que le PSG avait besoin de ce genre de scénario. Comme un peu à l'image de ce qui s'est passé ce week-end face au Havre, le PSG a besoin de sortir de sa zone de confort et d'être confronté à des situations de match imprévues et des situations de match compliquées. Donc je pense que ce match-là a eu un vrai impact sur la campagne en Ligue des Champions, et je suis très content de retrouver Dortmund parce qu'on est vraiment les deux survivants de ce groupe de la mort. Mais là où je trouve que le PSG a plus progressé que Dortmund, et peut-être que notre invité me contredira, c'est que le PSG est quand même beaucoup plus cohérent collectivement, là où je trouve que Dortmund n'est pas imperméable et la défense est quand même très friable, là où Paris a plus de garanties quand même.
On va retrouver Maxime avec son beau maillot du Borussia Dortmund. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis ce 13 décembre collectivement du côté de Dortmund?
Bah, collectivement, oui, ce qu'il y a Edin Terzic qui a quand même trouvé un 11 type avec un milieu, avec Sabitzer qui est en pleine bourse ces derniers matchs. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu un recrutement assez malin au mois de janvier avec le recrutement de Madsen et de Sancho. Donc, ça a apporté un plus aussi bien défensif que offensif. Ouais. Donc oui, je pense qu'on aura une équipe complètement différente qu'on a pu voir durant les poules. Après voilà, on est en train de parler d'une demi-finale de Ligue des Champions.
Maxime, donc, une équipe très offensive mercredi qui va essayer de faire la diff à domicile, selon toi?
Oui,
elle va pas calculer cette équipe de Dortmund mercredi.
Non, il faut jouer. Clairement, tu joues ton premier match en plus à domicile. T'as pas le choix. Tu dois faire un résultat. On sait tous qu'au Parc des Princes, ça va être très très compliqué. Donc, il faudra attaquer. Il faudra jouer son jeu. Faudra pas avoir peur. Et je pense que le stade et l'ambiance sera présente pour pousser les joueurs.
On a besoin d'un petit complément d'information sur l'attaque, parce que c'est vrai que cette équipe-là, on la voit très offensive. Mais tu me disais en préparant l'émission qu'en ce moment, Füllkrug, Adeyemi, Sancho qui revient et Daniel Malen qui reviennent de blessure, ils sont pas tous au top. Secteur offensif qui est pas forcément au mieux en ce moment.
C'est vrai, oui, c'est quand même une chose assez rare, parce qu'on a toujours, on parle toujours du Borussia Dortmund plus sur son côté offensif que défensif. Mais oui, là en attaque, ça a du mal à se trouver. Sancho et revient de Sibo, il n'a pas joué, il n'est pas encore dans sa plus grande forme. Adeyemi, c'est un courant alternatif. Et Füllkrug, c'est un bon joueur, mais au niveau Champions League, c'est plus difficile. Et souvent, il peine contre les grosses équipes.
Saïd Mahou, on revient en plateau. On craignait, alors si on parle du Barça, Lewandowski, Lamine Yamal, on aurait peut-être dû redouter Rafinha qui nous a mis 3 en 2 matchs. Est-ce qu'il y a plusieurs joueurs que vous redoutez particulièrement au Borussia Dortmund, ou c'est plus le collectif, l'ambiance?
Je pense que le collectif, l'ambiance va jouer. Maintenant, si on doit cibler des joueurs quand même qui peuvent m'inquiéter, il a cité Sabitzer. Sabitzer qui est quand même un joueur très très sous-coté, je trouve. Qui était du côté du Bayern et du côté de Leipzig, et c'est vraiment un soldat, c'est un joueur qui est fiable, qui est là dans les grands matchs, qui est capable de faire la différence, et à la fois sur une passe, mais également à la fois sur une frappe. Et je me méfierais aussi de Sancho et Adeyemi, qui sont deux joueurs très percutants, qui sont très rapides, qui sont capables de prendre les espaces, qui sont capables aussi de pousser l'adversaire à la faute sur un contact dans la surface. Donc quand même, Dortmund pour moi a des arguments offensifs pour mettre en danger le PSG. Ouais.
Mao, les joueurs à suivre ou à redouter?
Sancho pour moi c'est le facteur X, c'est lui, il a tout approuvé.
Le revanchard,
Le revanchard, en plus, il sort effectivement une période où il n'a pas joué pendant un certain temps.
Et donc, on l'a vu, il a mis un très joli but samedi malgré la défaite.
Exactement, moi, c'est l'offensive dont je me méfierais le plus, personnellement.
Ok. Maxime, on va revenir sur ce côté key players, joueur clé du côté de Dortmund. On a parlé de Sabitzer, tu peux développer, mais il y en a un qu'on oublie parfois et qui revient taille patron derrière, on a l'impression de le voir depuis toujours, c'est Mats Hummels.
Et ouais, clairement c'est le vétéran, c'est le patron de cette défense. Donc c'est lui qui tient la baraque derrière. Ça, il y a une belle fusion avec Schlotterbeck pardon, qui travaille bien ensemble et qui est très solide. Donc ouais, le patron, et en espérant qu'il prolonge encore une année pour le voir sous nos couleurs.
Mao, vas-y.
Est-ce que, Maxime, tu penses que Mats Hummels peut résister à la vitesse de Barcola, Mbappé, Dembélé?
Oui, je pense, parce qu'il a le, il a l'expérience. Voilà, il a joué de très grands matchs aussi bien international qu'en Champions League. Donc, il est malin, il est rusé, il trouvera une solution pour les arrêter et éviter les contre-attaques du PSG qu'on sait qu'ils sont dévastatrices.
Maxime, tu m'arrêtes encore une fois de plus si je dis une bêtise. Mathieu Meul s'est sorti sur blessure face à Leipzig. Il devrait être là. C'était un coup, je crois, au tibia. Sébastien Haller revient à l'entraînement. Ça sera trop juste. Et Sabitzer, qui était grippé, lui aussi devrait être là. Avant-dernière question, Maxime. Le fameux mur jaune, est-ce qu'on en fait trop ou est-ce que ce sera un facteur X supplémentaire mercredi ?
Non, bah, je pense qu'à toute personne qu'on parle du Borussia Dortmund, c'est la première chose qui ressort. Hein. C'est le stade, c'est l'ambiance, c'est les fans. Donc ça jouera clairement, ça sera le 12e homme. Étant sur place contre le PSV, c'était une très grosse ambiance. Ça a permis aux joueurs de se permettre d'avoir plus d'envie. Et
en quart de finale contre l'Atlético, on a l'impression que le public a presque mis un but en plus aussi.
Clairement, c'est le facteur X et c'est lui qui jouera un grand rôle dans la rencontre et pour les joueurs surtout.
Mao Saïd, j'ai une petite question là-dessus. On disait, et à juste titre, que le PSG avait du mal à l'extérieur en Ligue des Champions. On l'a vu à Milan, on l'a vu à Newcastle. Bon, victoire à San Sebastian, victoire à Barcelone. Est-ce que le PSG, là aussi, a franchi un cap ? C'est qu'un match aller, mais il y a quand même ce côté, match à l'extérieur, grosse pression.
J'ai l'impression que le PSG est plus perméable aux émotions. Peut-être contrairement à ce qui se passait en début de saison. Et j'ai l'impression même que le PSG se nourrit un petit peu de
l'adversité.
De l'adversité, exactement. Je pense qu'à Barcelone, public très hostile au PSG, ça a justement plus servi le PSG qu'autre chose. Là, face à Dortmund, on avait été à peu près sur le même scénario. Et en plus, ces dernières années, le PSG a affronté Dortmund à plusieurs reprises. Donc voilà, on est aussi sur une confrontation de deux équipes qui se connaissent plutôt bien. Moi, je ne pense pas que ça va perturber le PSG. Je pense que le public aura surtout un impact pour les joueurs de Dortmund et permettre aux joueurs de Dortmund de tenter des offensives et justement aussi de les motiver pendant les moments faibles, parce que le PSG est une équipe maintenant qui a beaucoup le ballon et donc du coup l'adversaire va beaucoup courir, va beaucoup souffrir. Je pense que c'est plus dans cette mesure-là que le mur jaune va avoir un effet sur ce match.
Mao, le PSG, serait peut-être beaucoup dire, mais est devenu imperturbable, imperméable.
Oui, moi je pense que les difficultés font la force du PSG et je rejoins pleinement Saïd sur le fait que ces scénarios compliqués font que quand on se retrouve à l'extérieur, dos au mur, et là on va être dos au mur de Dortmund, ben, ça nous met dans les meilleures dispositions finalement, avec le plus d'énergie et de caractère.
Une toute dernière question, Maxime, pour faire monter encore un petit peu la température avant cette rencontre. On a l'impression quand même de l'extérieur qu'il y a une certaine rivalité entre Dortmund et le PSG. Je m'explique, elle est alimentée notamment, je suis désolé, mais par vos dirigeants qui ne sont pas les plus grands fans du Paris Saint-Germain, de l'actionnaire qatari. Est-ce que vous la ressentez, vous, cette rivalité Dortmund-PSG, les supporters, ou c'est qu'une histoire entre dirigeants ?
Non, je pense que c'est juste une histoire entre dirigeants. Après, voilà, c'est deux mondes complètement différents. On a un PSG dirigé par les Qataris qui n'hésitent pas à mettre de l'argent et à dépenser à foison. Et alors qu'on est un Borussia Dortmund, club familial qui vit avec ses fans, qui doit vendre tous les ans un joueur pour se permettre d'avoir un recrutement par derrière. Donc je pense que voilà, c'est juste du côté plus média de faire ce débat, mais le principal sera de répondre sur le terrain et de la meilleure des façons pour les deux équipes.
Et puis un petit sentiment de revanche, je pense notamment à Mats Hummels qui n'avait pas du tout digéré la main au match aller, qui avait offert le pénalty à Mbappé, et puis la confrontation de 2020. Je t'ai vu tiquer très rapidement, Saïd.
Non, je n'ai pas tiqué, c'est juste, moi ça me fait rire, parce que globalement en Allemagne, ils ont un petit peu ce rejet de tout ce qui est PSG, ultra-argent, etc. Donc c'est un peu un constat qu'on aurait pu faire avec le Bayern, voilà, exactement. Le Bayern, ça m'a fait un petit peu rire, sachant qu'en plus, en l'occurrence, Dortmund, je trouve qu'ils n'ont pas réellement de raison d'être anti-PSG, sachant que, avec tout le respect que j'ai pour Dortmund, ce n'est pas une équipe qui est dans la même catégorie globalement dans le PSG, même si on va être adversaire ce mercredi. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu sourire.
Maxime, on va te remercier. Un immense merci à toi. C'était un vrai plaisir d'avoir ton expertise. Un bon déplacement aussi. Tu pars quand à Dortmund ?
Eh bien, on part demain avec le beau-frère Victor. On rejoint Strasbourg, les fans français et le groupe fan français, les Gallische Jungs. Donc, et on sera mercredi au stade avec d'autres Français pour soutenir le Borussia Dortmund.
Eh bien, régale-toi, même si on espère que ça ne tournera pas trop en faveur du Borussia Dortmund. Un immense merci, Maxime.
Merci à vous. Bonne soirée.
Allez, on se retrouve dans quelques instants. Faut-il combattre un petit peu cet optimisme ambiant qui escorte le PSG en ce moment? Les raisons d'y croire et celles de rester méfiant, c'est dans quelques instants, dans la dernière partie de COP Paris. De retour dans COP Paris, la dernière partie avec nos invités du soir, Mao Bekar-Granier, Saïd Amna. On vient de parler de l'adversaire, le Borussia Dortmund, qu'il faudra forcément respecter, même si le PSG semble partir favori. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'euphorie, je ne sais pas si vous la ressentez en ce moment, autour du PSG. On voulait dans COP Paris, alors on a évoqué un petit peu les raisons d'y croire, mais aussi celles de se méfier. Premier élément, on va revoir les images avec le match de samedi face au Havre, qui n'est pas complètement anecdotique, parce qu'on avait allé 5 à 6 joueurs qui débuteront mercredi. Match nul au final, 3 buts partout après avoir été mené 3-1 à l'heure de jeu. On va voir les buts ensuite d'Hakimi et Gonçalo Ramos qui arrachent le match nul. On retient quoi, Saïd, de ce match-là? 3 buts encaissés, le PSG en encaisse quand même régulièrement, ou le match nul arraché, refus de la défaite?
Je retiens plutôt le match nul arraché, refus de la défaite, parce qu'il y avait quand même un sacré turnover qui a été corrigé à la mi-temps, Keylor Navas, que j'adore, hein, mais qui manque beaucoup de temps de jeu et donc du coup voilà, qui n'a pas forcément les réflexes, qui n'a plus cette habitude-là de sauver des buts. Donc, c'était quoi la question?
Le Havre, qu'est-ce qu'on en retient?
Ah oui, donc voilà, pardon. Je retiens surtout le fait que le PSG s'est complètement arraché pour revenir, notamment avec le but de Gonçalo Ramos à la dernière seconde. C'est quelque chose que le PSG ne faisait pas auparavant. Donc, c'est une nouvelle facette de ce PSG-là qui est vraiment très, très plaisante. Et au final, ils sont partis chercher ce point du match nul, alors que c'était quand même assez compliqué. On avait une très belle équipe du Havre en face. Donc, c'est ce que j'ai envie de retenir. Très réaliste.
Et après, je rappelais avant l'émission qu'à la même époque, l'an dernier, le PSG perdait 3-1 à domicile contre Lorient. Ce match-là, l'année dernière, le PSG le perd.
Voilà, exactement. Alors que pourtant, là, le titre est déjà acquis. Ça se jouait à des détails. Qu'on est à quelques jours d'un match de Ligue des Champions. Donc, il y a toujours cette histoire de peur de se blesser. Donc, en général, c'est des matchs pièges qu'on perd. Et là, effectivement, le fait de se battre pour aller quand même arracher un point et donc, du coup, au final, le titre le soir même, grâce à la défaite de Monaco, est bien la preuve que le collectif va. Et d'ailleurs, il n'y avait pas d'agacement sur le terrain. Alors que, bon, à un moment donné, être mené 3-1 contre le Havre, on aurait pu considérer que c'était un peu une honte. Mais à ce moment-là de la saison, ils ne le vivent pas comme ça. On est dans un autre état d'esprit.
Je vous propose d'écouter Luis Enrique, justement sur l'état d'esprit et cette période faste que traverse le PSG. Luis Enrique qui a quand même évoqué la semaine dernière, et pas qu'à demi-mot, le quadruplé.
Nous sommes une équipe difficile à vaincre dans tous les domaines, physiquement, tactiquement et mentalement. Nous vivons notre meilleure période de la saison et je suis convaincu que nous allons batailler dur et nous qualifier pour la finale. C'est l'objectif.
La finale, c'est notre objectif.
Il y a une vraie confiance, on la ressent en ce moment à l'intérieur du groupe. Je me trompe peut-être, mais presque de la bienveillance parfois à l'extérieur. On n'est pas habitué à ça au PSG, honnêtement. Est-ce que c'est rassurant forcément, ou alors il faut un petit peu combattre cette euphorie ambiante?
Non, je pense que c'est rassurant. C'est très français de se dire il faut être humble, mais dans la caricature. C'est-à-dire, voilà, il faut la jouer vraiment attention, il faut toujours être prudent. À un moment donné, je pense qu'il faut être conscient de ses qualités et ne pas avoir peur de l'afficher. Et c'est ce que Luis Enrique a compris. Lui-même, il affiche une grande confiance parce qu'il sait que ses joueurs vont regarder ce que le coach va dire. Et que si le coach est confiant, eux-mêmes, ils vont être confiants. Ils vont se dire, cet homme-là nous fait confiance. Il sait qu'il peut nous emmener au sacre. Donc forcément, ça les galvanise. Et quand on regarde là récemment l'interview de Barcola qu'il a faite là pour l'UEFA, il dit, on sent qu'il y a un vrai collectif dans cette équipe. On défend tous ensemble, on attaque tous ensemble. Les anciens Mbappé, Dembélé, ancien à l'échelle de Barcola, me donnent des conseils, etc. Donc on sent qu'il y a une famille un petit peu qui se forme.
Saïd, sur Barcola, dans cette interview, il explique qu'au moment où le PSG prend le but à Barcelone,
la manière dont
il regarde tous et il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas d'emballement ou quoi que ce soit, le PSG est serein à ce moment-là.
Et ça, c'est nouveau.
C'est ça, il y a une sérénité. Et d'ailleurs, pendant la semaine, entre les deux matchs contre le Barça, on l'a vu dans les images après, notamment dans le film RMC Sport, il y avait une sérénité pendant cette semaine-là. Mais pourquoi? Parce que déjà.
C'est l'adhésion totale à ce que fait Luis Enrique.
L'adhésion, et surtout, eux-mêmes avaient conscience d'avoir bien joué contre le Barça. On perd 3-2, mais dans le contenu, c'était un bon match du PSG. C'était pas du tout un mauvais match, c'était pas une catastrophe. Donc ils étaient confiants là-dessus et sûrs et certains de le faire au retour. Et même mener 1-0, ils en étaient toujours certains. C'est pour ça qu'ils le font.
Et surtout, sur le match aller, tu prends le but du 1-0 et tu retournes le match en quelques minutes. Tu mets le 2-1. Et donc ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que voilà, cette équipe, elle est largement à ta portée, elle est largement prenable. Et toutes ces choses-là, bah, les joueurs, ils s'imprègnent de ça. Et au retour, pareil.
Vous faites une petite passe des matchs aller. S'il y a un joueur qui est peut-être passé à côté, notamment le troisième but, celui de Christensen sur corner, mais il n'y a pas que celui-là, Donnarumma. Peut-être la clé de cette double confrontation, Donnarumma, on va voir quelques chiffres sur le différentiel d'efficacité cette saison entre Ligue 1 et Ligue des Champions. 82% de tirs arrêtés, ce qui est quand même un très très bon pourcentage pour un gardien en Ligue 1. 71% en Ligue des Champions, ça redevient un ratio beaucoup plus banal. Nous revient forcément en tête ce match aller face au Barça. J'aimerais qu'on écoute un gardien champion du monde, Lionel Charbonnier, sur Donnarumma. Et on en reparle juste après.
Je reste un peu sur ma faim, sur ses prestations. Oui, il a été très bon. Oui, il fait une très bonne saison. Mais là, dernièrement, il y a de la pression, il y a tout ça, et il n'est pas transcendant. Si le PSG passe, c'est parce que Donnarumma aussi aura été très fort.
Il faut encore qu'il élève son niveau. Donnarumma, c'est flagrant, c'est évident dans ces grands matchs de Ligue des Champions.
Voilà, c'est un joueur qui manque de régularité, on le sait, mais moi je pense que les grands rendez-vous, ça peut le galvaniser. Il est encore jeune, il apprend, il a toujours fait des boulettes, mais là encore, Luis Enrique, il a été clair avec Donnarumma, ce qui ne l'a pas empêché de laisser un peu de miettes, de temps de jeu aux autres. Mais voilà, c'est Donnarumma, c'est une valeur sûre pour lui, il lui donne aussi cette confiance. Après, c'est un gardien de but, hein, il fera toujours des erreurs. Mais pour le coup, dans cette double confrontation, j'ai entièrement confiance en lui.
Le match aller face au Barça, c'est un accident ou c'est une valeur sûre? Donnarumma, ça peut pas être le maillon faible, si?
Mais c'est le maillon faible. Après, gens vont dire que j'ai encore un agenda contre Donnarumma, mais à un moment donné, je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. On a donné des chiffres. Donnarumma se laisse manger par la pression. C'est un gardien qui supporte très mal la pression. Alors, la boulette avec Benzema, mais c'est pas que ça. Même en termes de qualité de gardien, ok, il est très bon sur sa ligne, mais c'est un gardien qui fait quand même beaucoup d'erreurs de concentration. Si on regarde même sur le match retour, quand Lamine Yamal déborde Nuno Mendes, qui fait le centre, il n'a pas cette présence d'esprit de sortir, alors que la balle entre le défenseur Hakimi, Rafinha et lui, elle est assez réduite. En fait, le problème, c'est qu'il a énormément de lacunes, notamment quand il faut sortir. Il a une mauvaise lecture de la trajectoire.
C'est presque ça dont on parle le plus en ce moment.
Un jeu au pied qui est quand même assez catastrophique. Les joueurs ont parfois peur de lui faire la passe et de jouer avec son gardien. Et quand tu es dans ce genre de match-là où tu as besoin d'avoir des garanties derrière, si tu sais que tu préfères la mettre en touche plutôt que de la donner à ton gardien, ça pose quand même énormément de problèmes. L'idée, c'est pas de dire que Donnarumma est un mauvais gardien. Je pense que c'est un gardien qui est incomplet, c'est un gardien qui a énormément de problèmes de confiance et c'est un gardien qui peut trahir son équipe. Et à ce stade-là de la compétition, c'est très difficile. Moi, je pense que c'est vraiment le point faible. Et d'ailleurs, petite anecdote, parce que j'en avais parlé avec des membres du staff du Havre sur le match où il prend le carton rouge, il me disait que le carton rouge, ça les arrangeait pas, parce que la stratégie, c'était de presser Donnarumma. Voilà, au match aller, quand il prend le rouge, c'était de presser Donnarumma et de le forcer à faire des erreurs. Une fois qu'Arnaud Tonnas sort, la stratégie ne fonctionne plus et le PSG a retourné le match à 10 contre 11.
Saïd Donnarumma sera titulaire mercredi.
Je sais qu'il sera titulaire.
Il y a plus trop
mais les gens vont dire que j'ai un agenda, mais c'est simplement les faits.
Parce que c'est ce qui intéresse aussi les supporters parisiens du 11 probable du PSG mercredi soir.
Arnaud Tonnas.
On est parti d'un principe assez simple, mais que ne va certainement pas respecter Luis Enrique. 11 classique, celui qui a démarré à Barcelone pour le match retour il y a deux semaines. Mais avec Luis Enrique, on est quasiment sûr d'avoir une surprise. Est-ce qu'il va nous surprendre, Mao, le coach espagnol?
Oui, il va nous surprendre parce qu'il va faire exactement 7 compos.
Ouais.
Et ça sera une première, pas de grosse surprise. Et, parce que déjà, ce match contre le Barça est une référence, mais aussi parce que là, il a mis les meilleurs joueurs aux meilleurs endroits. Et d'ailleurs, on y reviendra après sur les postes où il peut y avoir des débats, mais aussi, et il l'a dit plusieurs fois dans cette saison, et c'est encore plus vrai maintenant, il n'y a pas que le 11 qui compte. Ouais. Donc pour lui, en fait, c'est presque pas un sujet. Il s'était trompé quand même en mettant Asensio titulaire. Et il ne le refera pas. Voilà, moi, il y a peut-être que Ruiz que je pourrais sortir de ce 11.
Ouais, encore Ougar. Enfin, il y avait le débat avec Ougar.
Voilà.
Bon, il y en a un. Allez, s'il y en a un qui est peut-être pas loin de bousculer la hiérarchie en ce moment, c'est Gonçalo Ramos. Il empile les buts et il marque des buts importants. Est-ce qu'il peut ou doit démarrer mercredi à Dortmund, Saïd?
Non, il ne doit pas démarrer. Évidemment qu'il peut démarrer. Mais il le mériterait parce
alors
que...
Alors il mérite, mais il ne doit pas.
C'est, voilà, ça pour moi, il le mériterait au vu de ses performances parce que c'est un joueur qui a été malade pendant une partie de la saison, avec qui ça n'a pas du tout fonctionné. Il est revenu, il a travaillé, il a profité des miettes, contrairement par exemple à Colomoigny. Ouais. Ce n'est pas pour lui tirer dessus, mais il a su mettre à bon escient ces minutes-là pour marquer des buts, notamment le but important là ce week-end face au Havre. Derrière, on voit qu'il a quand même 10 buts en Ligue 1 avec un temps de jeu assez familique. Donc, sur le point de vue personnel, bien sûr qu'il mérite. Maintenant, je pense que c'est le collectif qui mérite le plus et qui prime. La compo que vous nous avez montrée est la compo, je pense, la plus pertinente. Peut-être s'il y en a un qui je devrais changer, tout à l'heure vous l'avez dit, c'est Ruiz. Peut-être, coup de poker, peut-être que Enrique va faire jouer Lee.
Kangin Lee ? À voir.
À la place de Ruiz.
Mao sur Gonçalo Ramos. Je sais que tu as un avis différent.
Non, je suis ravi que Gonçalo Ramos soit en forme en ce moment et c'est un excellent neuf en devenir. Et ça tombe bien parce que l'an prochain, on aura besoin de lui après le départ de Kylian Mbappé. Mais là, pour la compo, pour moi, ça me semble. Il est évidemment indiscutable qu'il ne doit pas être titulaire. Barcola a toute sa place. Il a montré qu'il pouvait être un facteur X dans des moments difficiles. Avec nos trois flèches, ils arrivent parfaitement à interchanger. Évidemment qu'il y a aussi. Ça, parce que ça pose toujours la question de Kylian Mbappé en neuf. Finalement, c'est ça que pose la question de Ramos titulaire. Si on a Ramos titulaire, on a donc Kylian ailier et on est beaucoup à préférer Kylian ailier, mais et parfois un peu plus en panne sèche, en pointe. Mais aujourd'hui, dans cette configuration à trois, où il bouge énormément et en fait Kylian ne joue pas en neuf, il joue tous les trois, ils sont très mobiles les trois flèches. Ça fonctionne très bien et ça nous laisse en plus la possibilité de faire entrer Ramos à la 60e.
Très bon en remplaçant.
Voilà, on une petite tête à la 60e.
A pris trop de place.
On va voir ce qu'en pense la communauté parisienne. On vous a demandé sur le hashtag Cop Paris si Ramos méritait une place de titulaire mercredi. C'est un petit peu ce qu'on appelle la culture de l'instant. Gros plébiscite pour Gonçalo Ramos, 72% de oui réponse les amis dans 48 heures pile aux alentours de 20h mercredi pour la compo. Vous le savez, il n'y a pas que le PSG dans la vie, on est en retard, l'Omnisport avec Emma Cante.
Coup d'arrêt pour le Racing en top 14. Opposé au Stade Toulousain samedi, les ciels et blancs ont été largement battus par les partenaires de Thomas Ramos. Les Racingmen sont pourtant les premiers à s'illustrer avec l'essai de Camille Kamika. Mais les Franciliens vont ensuite encaisser 4 essais, dont 3 en seconde période, et s'incliner 32-12. Le Racing met fin à sa série de 4 victoires consécutives et devra relever la tête à domicile dans 2 semaines face à l'Aviron Bayonnais pour rester dans le top 6. Un triste samedi soir pour le Stade français. Les joueurs de Laurent Labitte se sont inclinés 41-18 face à Clermont. Menés après 5 minutes de jeu, les soldats roses ont encaissé au total 4 essais au cours de la partie. Jérémy Ward sauve l'honneur en inscrivant l'unique essai des Parisiens. Malgré cette défaite, le Stade français reste leader du top 14 mais ne compte plus que 2 points d'avance sur Toulouse. Le Paris Basket poursuit sa série de victoires. En match en retard pour le compte de la 29e journée de Betclic Elite, le club de la capitale recevait Bourg-en-Bresse à l'Adidas Arena. Malmené en début de partie, Paris a profité de la panne des Bressans au retour des vestiaires avec un seul tir marqué dans le jeu au cours du troisième quart. Les Parisiens ont su reprendre les commandes avec 27 lancers francs réussis sur 29. Grâce notamment aux 15 points de Justin Simon, le Paris Basket signe une courte victoire 84-80. Les Parisiens poursuivent leur invincibilité depuis 3 mois et comptent désormais 22 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Les joueurs de la capitale restent solides dauphins de Monaco au classement. Les Parisiennes n'ont pas réussi l'exploit face à l'OL en demi-finale de Ligue des Champions. Après 2 minutes de jeu, la Lyonnaise Selma Bacha déclenche une frappe puissante pour ouvrir le score. Paris répondra juste avant la mi-temps. Tabitha Chawinga, côté gauche, pénètre dans la surface et égalise. Insuffisant puisque Melchie Dumornay permet à Lyon de reprendre l'avantage. 2-1 pour l'OL et donc en cumulé 5-3 en faveur des Lyonnaises. Pas de finale européenne pour le PSG, mais une autre samedi prochain, la finale de la Coupe de France face à Fleury.
Comme Paris, c'est déjà fini. Rapidement, vous n'y couperez pas le petit pronostic pour mercredi. Mao.
3-1 pour le PSG.
Saïd.
2-1 pour le PSG.
Allez, victoire du PSG. Moi, je suis Mao qui avait donné le bon résultat à Saint-Sébastien il y a quelques semaines. Un immense merci à les amis. Merci également à Jordan Le Sueur à l'édition et en régie. Vous profitez bien du match mercredi. Et on se retrouve lundi prochain dans Cop Paris, à mi-chemin, on l'espère, de Wembley.